Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est une des habitudes du gouvernement hongrois à lancer des consultations nationales où il demande l'avis des concitoyens. Cette fois, il s'agit d'arrêter Bruxelles. Tous les Hongrois ont donc reçu un petit questionnaire et ils ont jusqu'au 31 mai pour répondre à des questions plutôt biaisées comme « Bruxelles veut forcer la Hongrie à accepter des migrants illégaux ». Pensez-vous que ces derniers devraient avoir le droit de circuler librement en Hongrie ou bien faut-il les placer en détention afin de déterminer leur statut et assurer la sécurité des Hongrois ? Cette campagne très anti-européenne a donc fait réagir la Commission qui a publié des rectificatifs, mais la plupart ne les a pas vus. Alors que pensent les Hongrois de cette consultation nationale ? Reportage de Florence Labruyère.
Maria est retraitée. Elle a reçu par la poste une lettre de Viktor Orban lui demandant de répondre à un questionnaire. Elle l'a rempli pour faire son devoir de citoyenne, dit-elle. Le document dit que Bruxelles veut abolir la baisse des prix du gaz et de l'électricité, qui a été décidée par le gouvernement hongrois. Êtes-vous d'accord avec ce plan de Bruxelles ? À cette question, Maria a répondu non.
À Bruxelles, ils détestent Viktor Orban. Quoi qu'il fasse, ils le critiquent. Nous, on ne veut pas forcément se plier à la volonté de Bruxelles ou des socialistes.
En réalité, la Commission européenne n'a pas l'intention d'interdire la baisse des prix de l'énergie. Mais Maria y croit dur comme fer. Le questionnaire laisse aussi entendre que les ONG internationales sont de mèche avec les passeurs qui font venir les migrants en Europe. Maria est persuadée que c'est vrai.
Pourquoi est-ce que tous ces gens arrivent en Italie ? C'est parce que ces organisations internationales les aident.
Mais beaucoup de Budapestois déclarent avoir jeté à la poubelle le formulaire de consultation nationale. C'est le cas de Tomasz Dietrich, cadre commercial.
Je l'ai reçu et je l'ai jeté. C'est pas une consultation. Ils prétendent poser des questions, mais ce sont des affirmations mensongères. C'est ça le populisme. C'est ce que font Orban et sa clique. Ils répètent sans arrêt des mensonges, des bêtises, et les gens finissent par croire que c'est vrai.
Barnabás Kádár a 25 ans. Il est l'un des fondateurs de Momentum, un nouveau mouvement politique pro-européen fondé par des jeunes. Pour lui, cette consultation nationale est ridicule.
C'est un tissu de mensonges. C'est comme si on demandait aux gens « Est-ce que vous voulez que la Hongrie soit réservée aux Hongrois ou alors vous préférez l'immigration illégale et le terrorisme ?» Qui irait choisir cette deuxième option ? C'est complètement idiot. Ils appellent ça une consultation, mais ça n'a rien d'une consultation.
Dans tout le pays, les affiches gouvernementales clament « Arrêtons Bruxelles ». Barnabás et ses amis ont collé des stickers sur ces affiches pour détourner le message du gouvernement.
On a remplacé le mot « Bruxelles » par « Orban » ou alors par « Moscou », si bien que le slogan devient « Arrêtons Orban, arrêtons Moscou ». Et dans le mot « Orban », on a remplacé la lettre B par une étoile rouge, pour montrer qu'avec Orban, on revient au communisme, à un régime autoritaire.
La Hongrie est l'un des plus grands bénéficiaires des fonds européens. Alors pourquoi cette campagne du gouvernement contre l'Europe ? Élément de réponse avec le politologue Richard Saint-Péteri.
À première vue, ce questionnaire parle d'Europe, mais en fait, il ne s'agit pas vraiment d'Europe. C'est une stratégie très intelligente pour attirer les électeurs qui votaient avant pour le Jobbik, le parti d'extrême droite. Or, le Jobbik a commencé à aller vers le centre.
Le parti d'extrême droite a abandonné son langage extrémiste et raciste. Ce changement de style déçoit certains de ses électeurs. Et ce sont ces déçus de l'extrême droite que le parti de Viktor Orban espère séduire grâce à cette campagne anti-européenne. Richard Saint-Péteri.
Ces électeurs déçus par le Jobbik se retrouvent sans parti. Le Fidesz, le parti d'Orban, s'en est rendu compte. Il pense qu'en allant vers l'extrême droite pour pêcher ses votes extrémistes, il gagnera les prochaines élections.
Selon le gouvernement, il serait 1,5 million sur 8 millions d'électeurs à avoir répondu au questionnaire. Un chiffre impossible à vérifier et mis en doute par plusieurs observateurs. La date limite pour retourner le formulaire a d'ailleurs été repoussée au 31 mai. Signe que cette consultation nationale ne suscite pas l'enthousiasme espéré.
Après des années de batailles politiques et sociales, le gouvernement de Dublin a reculé. L'eau restera gratuite en Irlande. Au plus fort de la crise économique, la Troïka, FMI, Union européenne et BCE avaient tenté d'imposer la taxation de l'eau courante, une disposition qui avait alors déclenché d'imposants mouvements de protestation et des appels à la désobéissance civile. L'adoption d'un rapport parlementaire définitif vient d'enterrer cette taxe sur l'eau, ainsi que l'âge de guerre entre les principaux partis. Julien Lagache.
Le sujet a failli provoquer la chute du gouvernement début avril. Minoritaire, l'exécutif dirigé par le Fine Gael de centre droit ne tient que grâce au soutien ponctuel de son rival historique, le Fianna Fáil, qui a brandi la menace d'une motion de censure si les charges sur l'eau n'étaient pas abandonnées. Atmosphère électrique, mais grâce à d'ultimes tractations, un accord a pu aboutir afin de supprimer le dispositif et de prévoir le remboursement des foyers qui se sont déjà acquittés de ces taxes tant décriées. À 96 voix contre 48, les députés ont adopté le rapport qui prévoit l'instauration d'une taxe, mais uniquement en cas de surconsommation domestique, c'est-à-dire si elle excède de 70% la moyenne quotidienne par individu, fixée en l'état à 133 litres. Le rapport préconise également la tenue d'un référendum pour déterminer si la gestion de l'eau doit rester publique. Les grands principes ont donc été arrêtés, mais dans le détail, rien n'est réglé. Il faudra notamment décider comment contrôler la consommation de chaque foyer, déterminer le coût de cette supervision et choisir entre une simple facturation, une taxe ou une amende pour les familles qui dépassent le seuil de gratuité. Un projet de loi devrait être présenté à l'Assemblée nationale avant l'été, l'occasion de nouvelles joutes politiques, plus techniques cette fois, et d'un casse-tête pour le gouvernement qui souhaite à la fois répondre aux attentes des Irlandais, mais aussi réaliser de gros investissements pour garantir un service de qualité comme le lui demande l'Europe. Or, le système de traitement et de distribution de l'eau en Irlande accuse un manque de financement criant. Les charges sur l'eau devaient permettre de combler ce retard, alors que les besoins sont chiffrés à plus de 5,5 milliards d'euros d'ici à 2021. With the empty brew blues, it's the only thing you'll ever hear from these two dudes. It's a cruel world, barking up the wrong tree, sniffing at the breeze while I'm scratching at these fleas. And when life gives me Lyme disease, well I give it a squeeze and mix some G&T's. C'est une maladie qui affecte des centaines de milliers de personnes en Europe et qui reste malgré tout très mal diagnostiquée. Selon l'OMS, 100 000 nouveaux cas de borréliose ou maladie de Lyme sont répertoriés chaque année, 3 000 rien qu'en Lituanie. Il suffit d'une petite piqûre indolore, d'une tique lors d'une promenade en forêt, et cela se traduira parfois par un long calvaire de fatigue et de douleur dans tout le corps. La maladie, elle est bien connue des pays baltes et ils savent la traiter. Prise à ses débuts, elle se soigne facilement avec un traitement antibiotique. Un laboratoire laiton s'est d'ailleurs lancé aujourd'hui dans les recherches pour créer un vaccin. Marielle Bituro.
Il y a 7 ans, alors qu'elle est enceinte de son 4e enfant, Skaidre contracte la maladie de Lyme, comme 2558 Lituaniens cette année-là. Elle n'avait pas senti la tique accrochée à sa peau.
J'ai remarqué début janvier une tache rouge au niveau de la cheville. Cela faisait quelques jours que je me sentais toute flagada, comme si mes os étaient devenus tout mou.
Sa grossesse rend le diagnostic de borréliose difficile, mais des analyses sanguines finissent par le confirmer et Skaidre repart avec un traitement antibiotique classique. Mais un an après la naissance,
j'ai commencé à perdre de plus en plus souvent l'équilibre. Une fois, ma mâchoire est restée comme coincée. Les nouvelles analyses ont montré que j'avais eu la maladie de Lyme, mais qu'elle était de nouveau active dans mon organisme. Les médecins ont avancé une explication. Comme j'étais enceinte à ce moment-là, la dose d'antibiotiques prescrite avait dû être trop faible pour venir à bout de la bactérie.
C'est pour prévenir ce genre de complications guérissables, mais parfois très invalidantes, que Kaspar Stars, du Centre de recherche et d'études biomédicales à Riga en Lettonie, tente de mettre sur pied un nouveau vaccin. Un premier vaccin élaboré par un laboratoire américain avait été mis sur le marché à la fin des années 90, mais ses effets secondaires, notamment des réactions allergiques, étaient trop importants. Kaspar Stars explique comment fonctionnerait ce nouveau vaccin.
La bactérie a une forme en spirale. Elle a pour caractéristique d'avoir une multitude de protéines en surface. Ce que nous avons fait, c'est emprunter une de ces protéines et l'attacher à une particule pseudo-virale. Nous n'avons fait pour l'instant que des essais sur des animaux. Quand nous l'injectons, le corps produit une réaction immunitaire à cette protéine qui se trouve en surface. Quand l'animal est confronté à cette bactérie de la boréliose, nous l'avons testé avec succès sur la souris, son organisme produit des anticorps pour se défendre.
Ce vaccin, qualifié de recombinant, fonctionnerait sur le même principe que celui contre l'hépatite B actuellement sur le marché. Caspar Starr et son équipe travaillent sur le cocktail de protéines à attacher à la particule pseudovirale avant de déposer un brevet d'ici la fin de l'année. Une technique qui provoque une réaction immunitaire forte. Et au vu des premières conclusions, ce vaccin pourrait déjà être un vaccin vétérinaire efficace. L'équipe de Caspar Starr s'est lancée dans ses recherches il y a 3 ans et plus de 500 000 euros ont déjà été dépensés via des fonds européens accordés à la Lettonie pour la recherche. Caspar Starr.
Nous développons ici des vaccins à base de particules pseudovirales pour d'autres maladies depuis plusieurs années. Quant à la boréliose, nous avons un groupe qui travaille sur cette maladie et qui avait ces protéines de disponibles. Nous avions nos particules et j'ai pensé, pourquoi ne pas associer les deux? Ce serait notre manière de contribuer à la santé publique. Les gens ont de plus en plus peur d'aller en forêt. Avec un vaccin, ils se sentiraient en sécurité. Ce serait notre contribution à la santé publique.
C'est en 1991 que le premier cas de la maladie de Lyme a été enregistré en Lituanie. Chaque année, entre 2000 et 3000 nouveaux cas sont détectés. L'entomologiste Milda Gigoutienė est la spécialiste de la tique en Lituanie.
Les tiques trouvent en Lituanie les conditions idéales pour se développer. Plus d'un tiers du territoire est occupé par des forêts, des espaces verts. Il faut dire aussi que la tique est tout sauf exigeante. Elle a juste besoin d'humidité et de se nourrir une seule fois dans sa vie. Le nombre des animaux sur lequel on a trouvé des tiques est de plus en plus important. Par exemple, la population de tiques sur les cerfs et les chevreuils a été multipliée par 10 entre 1960 et aujourd'hui.
Le docteur Daiva Radjichauskienė travaille depuis plus de 15 ans avec des patients atteints de Lyme.
Il arrive que les docteurs fassent la grosse erreur de ne pas diagnostiquer la maladie de Lyme car ils ne remarquent pas l'érythème migrant, les analyses sanguines ne montrent pas encore la présence d'anticorps et ainsi la maladie devient chronique. Je passe donc une grande partie de mon temps à assurer des cours aux étudiants, des séminaires de formation aux médecins généralistes, à présenter les nouveaux cas cliniques.
À Vilnius, la capitale lituanienne, l'un des plus grands parcs de la ville est une zone à haut risque. Pour prévenir la maladie, il faudrait tout raser. Une solution impossible pour Milda Gigoutienė, le nombre de cas devrait encore augmenter dans les prochaines années.
En Lituanie, en raison du réchauffement climatique, la période d'activité s'est désormais allongée. Avant, nous observions les tiques d'avril à octobre. Depuis une dizaine d'années, la période est désormais comprise entre mars et début décembre. Et vers l'automne, les gens ne sont plus aussi attentifs à ce problème que durant l'été.
Selon une étude européenne, les Lituaniens connaissent parfaitement les risques liés aux tiques, à la maladie de Lyme et à l'encéphalite, mais la prise de conscience n'est pas toujours synonyme d'attitude conséquente. Et chaque année, dès le printemps, les messages d'information et de prévention représentent une part importante du travail des centres de santé publique.
Et sachez qu'aujourd'hui, un congrès international de la maladie de Lyme se tient aujourd'hui et demain à Paris. En tout cas, les moules frites, hein, c'est bien un plat national de la Belgique, vanté aujourd'hui par le gouvernement dans une campagne de publicité destinée aux touristes. Avec 99 raisons de visiter la Belgique, les autorités misent sur l'humour. Et pourquoi 99 et pas 100 ? Lakshmi Lotha nous l'explique.
Pourquoi 99 ? Pour le plaisir de dire 99 et parce que 100, ce serait un peu exagéré, peut-on lire sur l'affiche publicitaire. Une campagne pleine d'humour qui utilise les traditions et les clichés sur la Belgique. Des panneaux sont affichés un peu partout dans le pays, mais aussi à l'étranger. Par exemple, une photo de gaufre recouverte de fraises et de chantilly. Avec cette phrase, on a inventé l'indice de masse corporelle, mais on ne s'en sert pas vraiment. Une photo de frites, avec en légende, on pourrait constamment rappeler qu'on a inventé les frites, mais on préfère les manger. une autre avec le grand Schtroumpf et ce texte. Nous aussi, on a des stars mondialement connues. Schtroumpf grognon, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpfette. La campagne se retrouve également sur internet www.autrementphénoménal.be. En cliquant sur les photos, il est possible de trouver des informations sur les lieux à visiter, les sites, les musées. Les autorités évoquent donc la gastronomie, mais aussi les monuments comme le Manneken-Pis. Notre symbole national n'a pas le prestige de la Statue de la Liberté. Notre statue prend juste des libertés. Les personnes célèbres comme Mercator, Rubens ou Magritte, les paysages comme les jacinthes du bois de Halle, les inventions et expertises, pilules contraceptives, nucléaires. Pour convaincre les derniers récalcitrants, la semaine dernière, des frites ont été distribuées gratuitement à Bruxelles et des gaufres à Liège. Une dernière pour la route, photo de chocolat. Le chocolat se conserve à l'abri du soleil, pas étonnant qu'on trouve le meilleur en Belgique.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Et avec nous Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui d'un jeune talent nordique qui se confirme dans le blues, Vincent.
La Suède, l'autre pays du blues, c'est le slogan qui vient régulièrement à l'esprit depuis notre découverte du jeune Bror Gunnar Jansson. C'était il y a 3 ans avec le 2e album de ce garçon qui a grandi dans un petit village près de Göteborg aux côtés d'un père contrebassiste et d'un grand-père accordéoniste. Instrumentiste tout-terrain, il pratique le violoncelle, la contrebasse, le saxophone ou encore la basse électrique. Bror Gunnar Jansson est biberonné au blues et ça s'entend sur les chansons rugueuses qui en respectent la lettre et l'esprit, notamment en prenant le parti de raconter des histoires avec d'ailleurs des personnages qui reviennent d'un disque à l'autre. On trouvera donc sur l'excellent And the Great Unknown Part 2 qui vient de paraître des silhouettes et des prénoms familiers.
L'accent vous laisse avec le son rocailleux de Bror Gunnar Jansson avec Moan, Snake Moan. Toute la semaine, il y avait bien sûr à la réalisation notre fidèle Françoise Grelot. Restez sur RFI, dans un instant les infos.